donner des ailes à la liberté, une trop courte émission de la CAT pour informer les auditeurs de RGC d'une actualité vulgarisée, mais à laquelle aucun de nous ne peut échapper. Pourquoi je dis vulgarisée ? Parce que depuis quelque temps, quelque chose nous ennuie les oreilles. Oui. Jacqueline, on voit un gros titre là.
Oui, les droits de l'homme des naïfs irresponsables.
Les droits de l'hommiste. Tu vois, les droits de l'hommiste au pluriel, des naïfs irresponsables. Alors on vous fait un petit dialogue.
Oui, alors, oui, c'est vrai que ces dernières années, un nouveau gros mot a été inventé pour qualifier les défenseurs des droits de l'homme. On les appelle droits de l'hommiste.
Alors, drôle d'insulte, n'est-ce pas ?
Eh bien, désigner comme irresponsables ou angéliques ceux qui défendent les droits de l'homme en les accusant de ne pas tenir compte des réalités du monde.
Alors, apparaît une opposition complètement artificielle entre les réalistes et les droits de l'hommistes.
Mais n'est-ce pas bizarre de dénigrer ceux qui veulent défendre l'être humain, sa liberté, l'égalité ou son droit de vivre dignement ?
D'autant que s'inquiéter du sort des personnes les plus faibles, c'est faire face concrètement à la dure réalité du monde.
Le travail mené au quotidien par les associations de terrain auprès des migrants, des mal logés ou en zone de conflit.
Difficile de dire que ces associations ne sont pas ancrées dans la réalité.
De plus, il faut rappeler que les droits de l'homme n'ont pas été rédigés par des doux rêveurs qui voulaient paralyser l'action des États.
Mais bien par les représentants des États eux-mêmes.
Oui, les dirigeants n'hésitent pas à rappeler leur attachement aux droits de l'homme en s'y référant dans leurs discours.
Se revendiquer des droits de l'homme pour ensuite accuser ceux qui les défendent de naïveté.
Oui, mais c'est pas un peu schizophrène ?
Eh bien, ça serait bien un peu schizophrène, oui. Dans tous les cas, si être droit de l'hommiste, c'est faire des droits fondamentaux la boussole de son action, alors à la CAT,
nous sommes fiers d'être droit de l'hommiste.
Bon, écoute. Voilà.
Est-ce pour se défendre d'employer ce gros mot que nous prenons la parole ?
Écoute, nous avons fait ça pour introduire notre émission. Non, on revient à l'essentiel tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission sur les droits de l'homme ? C'est l'essentiel, c'est parce que l'année 2018 va voir une septième bougie sur le gâteau des décennies. Ça va faire 70 ans cette année que les droits de l'homme ont éclos. Et puis, pensez à l'évolution de cette déclaration vers l'universalité. Nous allons faire un petit dialogue à partir d'une interview qui a été faite à la CAT avec quelqu'un qui a quand même, une carrure dans la réflexion sur ce sujet. Voilà. C'est une interview qui a été faite par Anna de Montis, qui est chargée de projet éditorial à la CAT. Et elle a interviewé le directeur du Centre de recherche et d'action sociale, le CERAS, qui est un père jésuite, Marcel Raymond.
Oui, l'universalité des droits de l'homme tient au fait qu'il représente le minimum nécessaire pour que chaque être humain, et particulièrement les plus faibles, puisse rester digne dans l'adversité.
Nous avons pris des extraits de cette interview, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et la journaliste de la CAT lui demande comment relier cela aux droits de l'homme.
Il répond : la force des droits de l'homme réside dans le fait qu'ils défendent les plus fragiles. Ils représentent le minimum nécessaire pour pouvoir rester homme dans la crise et dans le malheur. C'est cela qui fait leur universalité. Si l'on n'a pas de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir, de quoi s'éduquer, on perd son humanité. Garantir ces droits qui nous protègent nous permet de conserver notre humanité.
De même, continue d'exposer le père Raymond, de même, si on accepte qu'une partie des humains deviennent des objets ou des esclaves, c'est toute l'humanité qui perd une partie d'elle-même. Les droits de l'homme sont aussi les droits de l'humanité qui doit se battre pour que chaque homme reste homme et puisse le devenir de plus en plus.
Mais est-ce pas une utopie de défendre cette idée de l'homme universel dans le monde actuel ?
Et le père Raymond réagit en disant « pas du tout ». Certes, chaque société, chaque pays, chaque juridiction a différentes manières de protéger les droits et de l'écrire. Mais cela n'empêche pas que partout, les personnes scandalisées par des traitements qu'elles considèrent comme inhumains sont appelées à se battre. Les droits de l'homme, c'est aussi se battre pour ne pas perdre sa propre indignation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette interview sur internet a4france.fr. Droits de l'homme, grande question qui a été posée à un journaliste de nos quotidiens. Les droits de l'homme pourront-ils rester universels ? Au démarrage, quand ça a commencé à être écrit en Amérique en 1776, puis ensuite en 1789 dans notre Révolution, à l'époque c'était le droit de l'homme et du citoyen, ça ne s'appelait pas la déclaration universelle. Aujourd'hui, il y a un sigle qui est agaçant à entendre, il faut le savoir, c'est, on nous dit le DUDH, la DUDH, la DUDH, c'est quoi la DUDH ? C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous avons donc trouvé une interview récente. On a choisi des extraits, bien sûr, du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le monsieur Zed Raad Al-Hussein, dans le quotidien La Croix du lundi 18 décembre 2017. C'est récent, il y a 3 mois. Je précise que ce monsieur est à 8 mois de la fin de son mandat. Et il exhorte les pays européens à respecter leurs valeurs face au terrorisme et à la crise des migrants. Alors, nous avons choisi 2 questions à ce monsieur et questions-réponses. La première est celle-ci.
Oui, parce qu'il constate qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui mettent de côté cette question, les droits de l'homme.
Oh oui.
Face au terrorisme et à la crise des migrants.
Oui.
L'ordre légal international et l'ONU sont-ils en danger ?
Ah, alors là, oui, répond carrément ce monsieur qui n'est pas n'importe quel poste. Oui, bien sûr, tout gouvernement a le devoir de protéger sa population. Mais pas n'importe comment. Si les forces de sécurité se comportent comme les groupes armés ou même des groupes terroristes, cela devient très dangereux. Et au final, cela n'aide pas. Ceux qui se veulent réalistes et sérieux en matière de sécurité doivent se soucier des droits de l'homme. Sinon, ils risquent de se retrouver dans des situations difficiles. Comme dit Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge, les violations des droits humains aujourd'hui, si elles perdurent, sont les conflits de demain.
Alors, comment expliques-tu cette régression ?
Comment explique-t-on cette régression ? Que dit ce monsieur haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ? Il dit la question que nous devons nous poser, c'est celle de la méconnaissance et du mépris des droits de l'homme. Ça nous a paru très important, cette phrase, mentionnée dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'architecture de sécurité et de défense des droits de l'homme adoptée après la Seconde Guerre mondiale, a été porté par une génération. Ça, ça nous a paru important que de sa sagesse, ce monsieur puisse nous dire ça. A été porté par une génération qui avait connu le monde précédent. Cette génération disparaît.
Oui.
Et les gens oublient. En Pologne et en Hongrie, le nationalisme et le chauvinisme montent en puissance comme s'il y avait une amnésie totale du XXe siècle.
Oui, de ce qui s'est passé.
C'est facile de critiquer l'ONU, mais voulons-nous retourner au monde d'avant la Première Guerre mondiale? C'est une question qu'on pose dans notre émission. Ça peut nous faire réfléchir. Mais c'est vrai que notre génération, je dis notre parce que j'en suis, et on était petits, et notre génération commence à disparaître. Voilà. C'était une question pour que nous réfléchissions. Cette très courte émission « Droit de l'homiste », pour faire la provocation, ou plutôt cette courte émission de la CAT, ne peut avoir d'autre prétention que de rappeler à ceux qui ont saisi ces quelques minutes sur RGC que les droits de l'homme, ça se réfléchit, ça s'éduque, ça sert de socle à chaque instant dans notre vivre ensemble. Je crois que j'ai une petite phrase qui se promène par là. Reste toujours le problème du suivi et de l'application de ces principes qui nécessitent une volonté politique continue et résolue de la part de la communauté internationale. Et c'est donc moins la philosophie générale des droits de l'homme contemporains que la pratique même d'une politique fondée sur leurs principes qui doit être l'objet d'une attention renouvelée, d'une vigilance jamais détournée, afin que les droits de chaque être humain, sans exception, soient enfin universellement respectés.
Oui, ces droits de l'homme sont pour nous aussi la base de notre christianisme. Aime ton frère comme tu aimes Dieu.
Voilà.
Alors oui, continuons à rester vigilants. Restons des veilleurs. Alors bientôt, comme chaque année, le 26 juin, nous invitons les chrétiens à prier avec nous pour nos frères humiliés. Mais c'est aussi quotidiennement qu'il nous faut veiller à ce que soient respectés les droits des plus faibles. Oui, c'est dans notre vie personnelle aussi.
Absolument.
Des plus pauvres, qu'ils soient désespérés dans le couloir de la mort,
oui,
torturés au secret, ou demandeurs d'asile malmenés sur des rivages inhospitaliers. Aujourd'hui, comme hier, nous avons une espérance à dire, et ce message est universel.
Merci Jacqueline. Notre émission se termine. Nous sommes dans les temps.
Merci Marie-Claire.
On a essayé de dire nos convictions.
Oui. Nous préciserons la prochaine fois la date exacte et le lieu de la prière des veilleurs,
voilà,
à Chartres.
Voilà, voilà.